Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Katanga oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
À parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen sur Radio Okapi, la fréquence de la paix. L'État congolais vient d'établir un partenariat public-privé avec Dubai Port World, une société des Émirats arabes unis pour la construction d'un port en eau profonde à Banana au Congo central. En effet, une convention de collaboration devrait être signée entre les deux parties où l'État congolais aura 30% de participation non diluable au capital social. Ainsi donc, la RDC disposera d'un port d'une longueur de 1600 mètres avec 5 quais et d'un tirant d'eau de 15,5 mètres de profondeur. Que pensez-vous de ce projet? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081-890-63-30 ou encore au 081-890-49-69 pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Déjà, vous êtes plus de 4000 à avoir lu et commenté ces sujets. Merci de l'intérêt que vous avez accordé à ces débats citoyens. Jean-Claude Siala est à la mise en onde de cette émission réalisée par Pierre Lamégie. Nico Kalamba est au standard de ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungembo Luabung Anji sous la supervision de Martin Sebou Jangui. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons notre invité qui va ouvrir le débat de ce jour, Jean-Luc Bekama. Vous êtes avec nous. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour J.R.
Vous êtes deuxième vice-président et porte-parole de la FEC Congo Central. Vous avez suivi l'actualité comme nous et vous avez été également depuis toujours l'un des militants ou encore ceux qui sont farouches, en tout cas pour l'érection de ce port en non profonde, mais bien entendu avec des préalables que vous avez toujours évoqués. Est-ce que vous avez accueilli cette décision avec satisfaction?
Merci beaucoup, J.R., pour l'opportunité. Nous saluons tous les amis auditeurs de Radio Okapi. En effet, pour nous de la FEC Congo Central, c'est une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle dans la mesure où la rupture de transport qui a coûté beaucoup d'argent et qui a créé beaucoup trop de problèmes dans l'économie congolaise, notamment par la province du Congo Central, et c'est que nous n'avions pas, nous, notre propre port en eau profonde, et cette information nous a beaucoup réjouis. Mais, bien entendu, nous sommes un grand Congo, nous avons accès sur le mer, et nous avons, bien entendu, droit à un autre propre port en eau profonde. Nous sommes plus de 70 millions d'habitants, un très grand marché, il n'est pas normal que nous dépendions du port de Pointe-Noire et des ports de Luanda pour se ravitailler.
Alors, on sait tout de même que c'est une histoire, c'est une affaire qui ne date pas d'aujourd'hui. Depuis à cette époque où Pierre Lumbi, alors ministre des travaux publics et infrastructures et des travaux publics, qui avait relancé le débat de cette question. Et puis, par après, on a vu les ministres des Transports, Justin Kalumba Mwanangongo, ministre honoraire des Transports, prendre aussi à bras le corps ces dossiers. Ensuite, le projet a été piloté, comme toujours, par d'autres acteurs. Mais cela n'a pas donné les résultats. Et le fait qu'aujourd'hui, avec les Émirats arabes unis, est-ce que vous estimez que le dossier, il est vraiment crédible?
Bon, nous ne pouvons que faire foi, en fait, parce que c'est un vœu. Et ce vœu, je crois que tout ce qui est à notre pouvoir, notamment par l'entremise de nos autorités, pour pouvoir arriver à la concrétisation de ces projets, nous ne pouvons que saluer. L'historique que vous venez de décrire, nous le savons, mais au moins cette fois-ci, il y a un peu du concret dans la mesure où, vous savez, les Émirats arabes unis, généralement dans les projets qui les intéressent, ils mettent souvent du cash à ce que nous sachions. Mais pour nous, nous estimons que cette fois-ci, ça sera la bonne. Ça sera la bonne, c'est un vœu. Et bon, nous ne pouvons que donner un préjugé favorable à cet accord qui venait d'être signé, en fait, hier.
Voilà, c'était un montage financier quand même très important.
Bien entendu, mais c'est un très grand projet. Vous savez, ça ne se limite pas au port. Il y a également l'infrastructure qui devrait accompagner le port. Vous savez que nous sommes à la côte de Moanda, les conducteurs de Moanda, vous le savez, il y a un problème d'électricité, la route qui mène vers Moanda, vous savez les conditions, vous savez qu'on doit traverser le pont Maréchal, vous savez que nous avions un vieux projet de l'OEBK qui devrait en principe, qui partait de Banana jusqu'à Kinshasa. Donc tout ça, nous estimons, je n'ai pas encore lu le dossier lui-même, mais nous estimons que le ministre de Transport a pris tous ces éléments-là en compte et qui fera pour nous, de la province du Congo central, un réveil économique important, et nous ne pouvons que nous en réjouir si jamais ces projets arrivaient effectivement à concrétisation.
Est-ce que vous pensez comme les autres, Jean-Luc Bekama, que ne pas se soumettre à l'érection de ce, ou ne pas se soumettre à ces projets, contraint la République démocratique du Congo à générer la croissance au profit des pays voisins?
Bien sûr que oui. Nous sommes dans le secteur maritime, JR. Vous savez que tout ce que nous avons transite par le port de Pointe-Noire et par le port de Luanda. Donc, ça voudrait dire que, en termes de timing, en termes du taux de fret, en termes de prix finalement au niveau de notre marché, nous constatons qu'il y a des prix qui arrivent finalement élevés par cette rupture de transport. Donc, avec notre propre port à nos profondes, nous croyons et nous sommes toujours convaincus et ça va booster l'économie congolaise par l'Ouest.
Il n'est pas un secret, les exportations et importations congolaises, en prêtant le voie par exemple de Dar es Salaam et de Durban, offrent une croissance de 7 à 10 milliards de dollars américains à la Zambie et à la Tanzanie d'une part, et à la Zambie, au Botswana et à l'Afrique du Sud d'autre part. Donc nous aurons vraiment, c'était quand même un manque à gagner pour nous, et cette fois-ci ce sera un grand profit.
Bien entendu, JR, c'est tous nos voeux. Et nous croyons fermement à cette volonté, comme ça a bien commencé maintenant, espérons que ça ne s'arrête pas.
Merci beaucoup Jean-Luc, on vous garde en ligne, il est temps d'écouter peut-être les auditeurs qui vont enrichir également les débats de ces jours, et puis on reviendra à vous donc tout à l'heure, 09 97 06 63 30 ou encore les 09 97 06 49 69 pour votre intervention en direct.
Grande Interview. L'actualité en profondeur sur Radio Okapi, c'est dans Grande Interview. Des questions politiques, économiques, sécuritaires et tout ce qui touche au vécu des Congolais sont abordées avec les spécialistes et les acteurs qui font l'actualité. L'actualité évolue et nous aussi. Toute l'équipe vous donne rendez-vous tous les samedis à 10h05, 13h05 et 19h35.
@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi. Jean-Claude, vous êtes à Kindu. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour cher ami et bonjour à tout le monde.
Un projet qui date de 1980 et maintenant il y a une lueur d'espoir parce que tout se dessine positivement pour sa matérialisation. Quel est le sentiment que vous avez, Jean-Claude, depuis Kindu?
Oui, sinon mes sentiments sont des satisfactions, comme tout Congolais patriote. Moi, je pense que c'est un projet ambitieux, c'est un projet majuscule, c'est un projet qui va au moins booster l'économie de notre pays. Mais j'ai un certain nombre d'inquiétudes par rapport à ce projet, quand je sais que notre pays est la RDC et surtout notre gouvernement est spécialiste en matière de promesses. Moi, je pense que loin de moi toute prétention de vous apprendre quoi que ce soit et d'aller dans des faits propagandistes ou sinon politiques. Moi, je pense que vous avez bien dit, c'est depuis 1980 et il y a eu certains projets, d'autres projets qui n'ont pas abouti à sa fin. Est-ce que réellement ce projet, les lambda congolais vont bénéficier à ce projet? Est-ce que ce projet va aboutir à sa fin, va atteindre sa finalité? Je ne crois pas. Je ne crois pas avec tous ceux qui nous regardent et avec le peu de budget. Parce que quand je vis les montants de la construction de ces ports en eau profonde, écoutez, il y a risque et il y a au moins un certain nombre de questions à se poser. Donc, comme tout Congolais, je reste au moins prudent, je reste circonspect par rapport à ce projet. Mais attendons voir, voyons l'avenir. Et peut-être vous allez aussi organiser la même émission l'année prochaine ou l'année qui va suivre pour voir si réellement on va atteindre les objectifs et on va atteindre aussi arriver à sa fin, Juel.
Oui, ben on sait tout de même que ce projet a pour objectif la création d'une liaison ferroviaire entre l'Afrique centrale et l'Afrique du Sud à partir de la RDC. Alors le budget de son exécution se chiffre à 1 milliard 665 millions de dollars américains. Alors les gouvernements de la République du Congo et de la RDC en sont les principaux sponsors. Comment vous pensez?
Oui, surtout que ce sont nos deux gouvernements qui sont des sponsors. C'est là où moi je doute. Parce que quelque part, après 6 mois ou 3 mois, on vous dira que non, nous ne sommes plus à mesure suite à telle condition, suite à ça. Moi, je suis content, c'est un projet ambitieux. Mais quand je vois comment les ports, par exemple, d'Abidjan, les petits ports qui ne cadrent pas ou qui ne convient pas avec notre port ici, les Moandes, mais comment ça génère des recettes? C'est, si nous avions un gouvernement sérieux, si nous avions des gens qui sont responsables, on pouvait espérer. Mais moi, j'ai dit, je laisse ça à l'avenir. Attendons voir la réaction après 2, 3, 4, voire 5 ans. Je ne crois pas. À un moment donné, vous avez parlé des chemins de fer qui allaient relier Dar es Salaam jusqu'au Congo-Brazza. Où en sommes-nous? Hein? Donc, il y a des inquiétudes à se poser. Moi, je me dis, je salue des deux mains, comme tout Congolais. Mais attendons voir la suite.
Merci beaucoup, Jean-Claude. Vous estimez que c'est un projet ambitieux qui va réellement booster l'économie de la RDC, mais vous n'avez pas hésité de mettre un peu quelques inquiétudes, notamment en ce qui concerne les promesses qui sont faites par le gouvernement et qui ne sont pas tenues par la suite. Et comme ce projet date de 1980, vous redoutez comme les autres que cela puisse s'arrêter à mi-chemin, et surtout que les deux sponsors, c'est les deux capitales les plus rapprochées du monde, et on sait quels sont les enjeux entre les deux pays autour de ce projet. Merci beaucoup, Jean-Claude, d'avoir appelé. Sissa Dimonakena, vous êtes à Boma. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, merci. Grand merci à tous les auditeurs et grand merci à la grande radio Capi.
Alors, vous êtes de l'Union des douaniers de Boma. Vous avez peut-être une idée. Est-ce que ces projets, tels que qu'ils sera matérialisé, c'est vraiment la satisfaction de toute la population de Boma? Parce que c'est là où, d'ailleurs, le projet va se réaliser.
Eh bien, merci. Un petit correctif. Je suis le président urbain de l'Union des déclarants en douane au niveau de Boma. En fait, le projet, c'est un projet ambitieux. C'est un projet merveilleux, c'est un projet que nous avons tant souhaité, quand bien même que c'est là, c'est depuis 1990 qu'on en parle et que la réalisation tarde toujours. Nous voyons le problème autrement, c'est-à-dire nous voudrons beaucoup plus épingler sur l'aspect politique de l'importation. Sur l'aspect politique de ce qui fera que nous puissions avoir beaucoup plus d'importateurs. Puisque vous savez, nous pouvons avoir 2, 3, 4, 5 ports. Mais si le système économique, du point de vue de l'importation et de l'exportation, ne pas apprécier, écoutez, que vous ayez 20, 25, 30 ports, les importateurs ne viendront pas. Pourquoi je dis cela? Je dis cela parce que j'ai la vive conviction que notre pays hésite à mettre en place les mesures incitatrices de manière à ce qu'ils puissent attirer beaucoup plus d'importations. Vous savez, on se le dit, hein, puisque je le dis souvent, nous avons la douane la plus chère et la douane la plus tracadière qui puisse exister. Notre État fait naître des tas matin, midi, soir. Il n'y a pas plus tard que deux mois. Donc, le CSUV a été revu à la hausse. Mais essayez un peu de parcourir le port qui nous sont frontaliers. Le laisser suivre, c'est à $25. Mais il n'y a que chez nous où le laisser suivre coûte. Bon, là, je parle d'un conteneur de 40 pieds qui coûte plus de $1,000. Et on a encore ajouté quelque chose dedans.
Oui, mais si ça, par ce projet, je crois que l'un des avantages, ça serait supprimer toutes ces tracasseries.
Vous savez.
Parce que pour une fois, on aura un port à la dimension internationale.
Justement, j'ai bien peur que d'une fois que ce port réalisé, qu'on puisse encore ajouter une autre taxe. Écoutez, bon, soutien à la construction de ce port, ou soit soutien à l'entretien de ce port. Donc, je sais de quoi je parle. Vous savez, monsieur. On a parlé de la redevance logistique ici. Écoutez, nous payons $450 pour un conteneur de 40 pieds et 225 pour un conteneur de 20 pour la construction de voies ferrées. Est-ce que nous avons des voies ferrées fiables ici? Bon, je l'ai dit, je dis non.
Merci beaucoup. Alors, donc, pour vous voyez beaucoup plus les enjeux politiques et la politique à imprimer pour en fait la réalisation de ces projets. Et vous craignez la surtaxation douanière dans les jours à venir, du genre peut-être on risquerait de créer une taxe ne fût-ce que pour alourdir un peu la machine, les territoires douaniers. Et ça risque de poser énormément de problèmes. Et vous avez cité un exemple de la redevance logistique qu'on impose à ceux qui veulent dédouaner les 40 pieds. Voilà, c'est déjà un problème. Donc vous ne voulez pas que ça soit une opportunité pour certains opportunistes qui sont en tout cas gestionnaires sur le plan politique. Merci beaucoup Sissa Dimonekene d'avoir appelé des Boma. Charles, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour monsieur. Je suis très content de participer à cette émission. Oui, sinon ma participation est celle-ci. Il y a une chose que nous devons savoir. On ne peut pas rester quand même négatif sur toutes sortes de ce que nous sommes en train de connaître dans ce pays. C'est vrai que la politique du gouvernement, ça nous laisse à désirer, comme mon précédent qui vient de parler là. Mais sinon, c'est un projet louable. C'est un projet purement louable. Nos autorités, ça fait longtemps qu'ils rêvaient, ils dormaient sur ce des oreilles pour ne pas avoir ce type de projet qui va développer toute une ville. Je peux dire la même chose. Je peux donner l'exemple d'un aéroport. Pourquoi la même qu'ils investissent, qu'ils fassent la même chose dans le fait aussi des aéroports internationaux, le nombre de standing internationaux, des grandes envergures, avec tout ce qui s'en suit, ce qui va suivre. Et je suis très content de faire des projets. Nous devons comprendre que c'est le plus élevé qui investit devant. On ne peut pas attendre que le gouvernement cherche à avoir ses milliards pour construire ça. Non. Donnons les projets aux privés qui ont des moyens, qui veulent investir, ailleurs dans le monde. Toujours précis, on trouve des routes privées. C'est bien qu'il a construit, mais il met un peu de temps pour collecter quelque chose en fait pour la fluidité de transport de conducteurs. C'est louable comme projet. Je suis vraiment d'accord. Si c'est des moments, tu vas se stabiliser, je ne sais pas qui. Je m'en tape de non, mais sinon, c'est un projet vraiment louable. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Charles d'avoir appelé de Kinshasa et d'avoir contribué dans cette émission. Et vous le savez que ces projets datent de 1981, du temps de Mobutu. Au Congo central, le gouvernorat monte un projet plutôt de port flottant qui ne sera jamais concrétisé. Du concret arrive pourtant lentement mais sûrement. L'érection du pont route et rail entre Brazzaville et Kinshasa, un projet tant redouté par l'élite et les hommes d'affaires du Congo central. Quant au probable effet d'asphyxie des ports maritimes de Boma et de Matadi de la province. Alors du temps où Olivier Kamitatu était encore ministre du plan, le Congo central avait obtenu du gouvernement que la construction du port en eau profonde au large des Bananas soit un préalable à la réalisation du projet panafricain route et rail entre Kinshasa et Brazzaville. Aujourd'hui, chose faite, port en eau profonde à Banana sera concrétisée avec les Émirats Arabes Unis. Alors Omar, vous êtes à Kinshasa, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Gilles Longuembo, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Et quel est votre sentiment, que pensez-vous de ces projets?
Comme tout Congolais, comme tout prédécesseur qui m'ont précédé, si je peux le dire ainsi, je suis très content, sentiment de satisfaction et d'émotion parce que, nous l'avons toujours dit, le vœu de tous les Congolais de voir le pays émerger. Or, parmi les axes indicateurs de l'émergence, il y a aussi, n'est-ce pas, la fluidité des transports. En ce sens, nous sommes très contents, sentiment de satisfaction, et nous encourageons les initiateurs du projet. Cependant, comme certains auditeurs, surtout les délégués qui m'ont précédé, il y a quand même lieu de soulever quelques inquiétudes, notamment par rapport à la faisabilité complète du projet à sa réalisation, et une fois le projet réalisé, à sa possibilité d'être générateur de revenus pour l'État. Premièrement, par rapport à sa faisabilité complète, je voudrais dire que depuis 1980, ce n'est pas le premier projet. Nous avons toujours décrit ici des projets initiés qui n'ont jamais abouti. Je pense avec l'intervention des Émirats arabes, qu'on appelle d'ailleurs en droit les contrats économiques avec le privé, on peut toujours aboutir à un point. Et le souci très cher, j'y ai, c'est que lorsqu'on initie ces ports, c'est pour faciliter la fluidité des transports et renflouer davantage le caisse de l'État. Je voudrais insister, une fois le projet concrétisé, parce que les préalables montrés nous poussent à croire que ça va se réaliser, quels sont les mécanismes qui seront mis en place pour que ces projets puissent être rentables pour l'État? C'est ça le souci, c'est là où le bas blesse. Si vous faites un tour dans les ports qui existent déjà ou dans les fluidités qui existent déjà, vous allez vous rendre compte qu'il y a un système désorganisé. Il y a des temps passés, je crois, le Premier ministre actuel a publié certaines mesures régissant les ports et les endroits où les transports est effectués, supprimant certaines taxes, certains services, certaines surtaxations. Dans ces jours très chargés, on se rend compte que les désordres continuent. Les ports peuvent être établis, les projets peuvent être réalisés, mais si les systèmes mis en place ne permettent pas ce que ça puisse rentabiliser la caisse, on ne fera rien. D'où je parle d'abord de la surtaxation. Aujourd'hui, beaucoup des affaires douanières échouent, beaucoup des entrées, des importations échouent, c'est parce que on ne sait pas vraiment respecter l'aspect douanier et laisser le prix. Deuxièmement, il y a plusieurs services qui organisent ces ports-là. On a des services fictifs, des services qui n'existent pas. Si on pouvait mettre un accent sur le contrôle, là, je fais les jamais de l'économie pour se faire. Donc, il n'y a pas à dire aujourd'hui, les projets louables, nous l'encourageons, nous voulons voir ces pays émerger, mais que les systèmes de mise en place et de suivi soient efficaces pour éviter une surtaxation, pour que l'argent collecté puisse vraiment être dirigé vers les trésors publics, ainsi pour éviter ces services fictifs qui reçoivent l'argent et ne les remplissent pas dans la caisse de l'État. Voilà ma petite contribution et ma petite satisfaction par rapport à ces deux.
Merci beaucoup, Omar, d'avoir évoqué la question sur la faisabilité de ce projet et que vous reconnaissez comme tous les autres que si jamais ce projet est réalisé, ça pourrait générer des revenus pour l'État congolais. Alors, à ce niveau, nous revenons à vous, Jean-Luc Bekama, en tant que deuxième vice-président de porte-parole de la FEC. Vous avez suivi les uns les autres et ces projets, n'est-ce pas que ça pourrait, si jamais il y a un bon climat d'affaires, aussi permettre aux opérateurs économiques de faire de bonnes affaires et uniquement à Matadi et faciliter les exportations et les importations?
Oui, merci beaucoup, Gir. Je crois que le problème de la cherté de nos ports actuels, notamment le port de Boma et le port de Matadi pour le compte de la SCTP, est justement consécutif au fait que nous utilisons justement des petits navires. Nous avons un problème d'un bief maritime entre Matadi et l'océan qui est très capricieux et très divagant. Donc, l'érection de ce port en eau profonde va certainement changer l'équilibre d'un certain nombre de choses. Mmh. Vous comprenez que si les conteneurs doivent être totalement déversés à Banana et à Mwanda, là où sera érigé le port, la conséquence est que l'activité exercée par la CVM sur les biefs maritimes va certainement changer. Donc, tout ce qu'il y a comme prix additionnel ajouté sur nos frettes par rapport au fait que nous avons cette rupture de transport va certainement être modifié. Donc, je crois que on ne peut pas aujourd'hui considérer à se verser dans le pessimisme. Nous croyons qu'on doit être positif Et pour nous, le plus important, que ça commence. Que ça commence et que ça aboutisse, effectivement.
Alors,
tout le monde émet de réserves sur l'aboutissement, mais ne peut aboutir que ce qui a commencé.
Oui,
nous n'avons pas encore commencé. Nous avons aujourd'hui des accords qui sont signés. Et nous voulons d'abord voir cela se faire. Et une fois que cela va se faire, ça va bien entendu, sur le plan interne, changer l'équilibre des choses en termes de tarification, en termes de frais, ainsi de suite. Ça va se modifier.
Donc si je comprends bien...
Ce sont des choses
oui,
alors... qui vont venir dans un premier temps, que nous ayons notre propre port en eau profonde.
Alors si je comprends bien...
Et le reste, avec le gouvernement, nous nous mettrons autour d'une table et nous négocierons sur ce qui doit être élagué pour que, effectivement, nous puissions être compétitifs sur le marché.
Alors Jean-Luc, si je comprends bien, parce que je vois là l'internaute qui nous a écrit, qui évoque la question s'il y aura un impact sur les CIF et les FOB. Bon, je ne sais pas, peut-être vous, en tant que spécialiste, vous pouvez nous éclairer là-dessus.
Mais bien entendu. Parce que, vous savez, quand les amis évoquent la différence que nous avons dans nos CIF avec le port de Pointe-Noire et le port de Luanda, par exemple, justement, à cause de ça. Parce qu'un conteneur qui est déchargé d'un navire qui a amené 3000 conteneurs déchargés à Pointe-Noire, mais son fret, il coûtera moins cher que le conteneur qui a été d'abord déchargé à Pointe-Noire, repris sur un autre petit navire et acheminé jusqu'à Matadi. Voilà pourquoi quand le conteneur arrive au port de Matadi, son fret est très élevé et par conséquent son CIF sera plus élevé que celui du port de Pointe-Noire et du port de Luanda. Donc moi, c'est pourquoi je dis que c'est la chose la mieux pour le trafic maritime en RD Congo. Donc nous ayons notre port, l'équilibre par rapport au prix, notamment nos
ça va suivre.
Notamment avec les frais et tout ça, ça va changer.
Voilà.
Vous savez, ce que nous payons auprès de la CVM par rapport à l'entretien de notre bief maritime, ce sont des montants colossaux. Donc moi je crois que les opérateurs économiques du secteur maritime qui nous écoutent, je crois que pour nous tous, c'est une nouvelle qui est encourageante.
Voilà,
ce port-là, nous croyons qu'il y a un certain nombre d'inquiétudes qui vont certainement disparaître.
Oui, on reviendra à vous encore d'un moment à l'autre, le temps peut-être d'écouter deux ou trois autres encore auditeurs par rapport à cette question sur l'érection d'un port en eau profonde à Banana au Congo central qui aura comme effet d'entraînement, comme vous venez de dire, l'équilibre sur les frais et même les frettes, et ça pourrait aider tant soit peu. Ingénieur Mangoyo nous a rejoint également. Ingénieur Mangoyo, vous êtes avec nous, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Monsieur J.R.,
vous venez de suivre notre invité qui a évoqué l'impact que cela aura même sur les CIF.
Merci pour la parole d'abord, Juif. Oui, bien sûr. Ce projet d'érection d'un port en eau profonde ne date pas de longtemps. Ne date pas d'aujourd'hui, ça date de longtemps. Tout le monde le sait et on l'a déjà dit. Si aujourd'hui on va concrétiser ce projet, c'est une bonne chose pour le peuple congolais. Je voudrais dire une chose. Une chose est de concrétiser le projet et de construire ce port-là en eau profonde. Une autre encore, c'est l'entretien de cette infrastructure. Parce que tout le monde sait. Moi j'ai vécu à Matadi, je connais ce que fut le port de Matadi et le port de Boma. Je suis né à Boma et j'ai vécu à Matadi aussi. Je sais ce que représentaient ces deux ports, bien que ces deux ports n'ont pas été construits en eau profonde. Mais l'entretien, la maintenance, est-ce que notre gouvernement y pense, songe à ça? Parce qu'on va avoir ce port-là. OK. Bon, moi, la question que je me pose, parce que vous avez avancé, je crois que le coût de ce projet-là, si j'ai bien compris, c'est quelque chose comme 1 milliard de dollars américains. J'ai, franchement, la question que je me pose, est-ce que les ports de Pointe-Noire, de l'Angola, ont été construits avec l'accord, c'est pas moi, l'apport des partenaires sociaux, c'est pas moi, des partenaires extérieurs, et ainsi de suite. Est-ce qu'un milliard dans notre pays, est-ce que nous ne pouvons pas, nous organiser pour que des projets qui ont un impact certain dans le développement
du pays. Oui, Agenor Mangoyo, je crois que.
Financé par le pays lui-même. Est-ce que ce n'est pas possible?
Avant d'abord le montage financier de 200 millions de dollars, on parlait de liaisons ferroviaires entre l'Afrique centrale et l'Afrique du Sud qui, en fait, les budgets de son exécution étaient chiffrés à 1 milliard. Mais au moins, on n'a pas une idée très claire sur ce que va réellement coûter parce qu'on nous a dit les travaux pourraient aller, en tout cas si ma mémoire est très bonne, maximum 2 ans ou encore moins. Et donc, nous n'avons pas encore des chiffres exacts qui a été, parce que la convention sera signée dans les jours qui viennent. Et entre-temps, on sait simplement que l'État congolais aura 30% de participation non diluable au capital social. Mais d'aucuns disent que c'est faible.
Oh, Gilles, c'est dommage. Tout l'argent qu'on dilapide, qu'on gaspille ici, si vraiment on avait un budget national digne de ce nom, je crois qu'il y a certains projets qui peuvent être financés sur fonds propres. Ce n'est pas impossible, Gilles. Tout le temps, nous devons nous référer. Regardez, nous avons la réputation, nous, de commencer le projet et après, on suspend. Moi, je suis à Maloueka, par exemple, ici. Vous voyez qu'il y a l'infrastructure, la route Nzolana. La route Nzolana a été prévue pour faire jonction avec l'UPN là-bas. Mais on construit une partie et arrivé quelque part, on ne dit pas au peuple congolais pourquoi on a arrêté alors qu'on a fait. Beaucoup de bruit autour de cette route, et on a arrêté. Et conséquence, cette route commence encore à s'abîmer parce que une bonne tronçon là qui va jusqu'à l'UPN n'est pas réhabilitée. Non, je crois que nous devons faire un effort pour que lorsque on construit des infrastructures, nous devons aussi prévoir la maintenance et tout ça. Parce que, regardez la STP. La STP, l'ex-ONATRA, JR. Regardez, parce que hier j'ai suivi le ministre de commerce extérieur, je crois, M. Lucien Moussa, qui parlait des barrières tarifaires. Il y a une réunion qui s'est passée, m'a fait au Rwanda, et pour justement supprimer des barrières tarifaires. Mais la question que je me pose, est-ce que ces accords-là n'auront pas, par exemple, un impact sur la vie de notre douane? Est-ce que le personnel de la DGCA, est-ce qu'il n'y aura pas un impact sur leur vie sociale? Tout ça, on doit prévoir ça. L'intégration, c'est bien. Mais il faut voir aussi le vécu quotidien du peuple congolais. Hein, parce qu'on va supprimer tous ces tarifs-là. C'est bien. Mais de quoi vivra maintenant la DGCA et son personnel?
Merci donc beaucoup, Ingénieur Mangoyo.
Un effort, JR, pour que notre pays, c'est un grand pays. On a toujours dit, nous avons des ressources. Faisons un effort quand même dans notre budget national. Il y a un candidat qui a dit, bon, il va mobiliser 100 milliards. Bon, écoutez, ça, c'est bien, c'est une ambition. Mais maintenant, là, avec tout ce que nous possédons, les projets que nous pouvons financer sur fonds propres, au lieu de chaque fois de recourir, c'est pas moi, financer externe.
Voilà. Maintenant, c'est un autre débat. 30% pour la RDC, 70% pour les partenaires. D'aucuns disent qu'effectivement, c'est une façon aussi de vendre notre souveraineté. Nous poursuivons ce débat. Franck, vous êtes à Vienne. Bonjour et bienvenue. Franck, vous êtes avec nous? Voilà, on revient à vous, Jean-Luc Mekama. Vous êtes encore avec nous en ligne?
Ouais, je suis en ligne, Gilles.
Alors, quel est votre commentaire par rapport à ce que vient de dire les auditeurs, surtout avec la participation de l'État, le gouvernement congolais, avec 30% de participation non diluable au capital social de ces projets?
Bon, vous savez, j'ai entendu un auditeur, effectivement, soulever le fait que nous-mêmes, la RDC, nous avons la possibilité de mobiliser cet argent. Mmh. Bon, c'est une bonne chose. Mais vous savez, si nous prenons les ports que nous sommes en train d'évoquer, vous prenez le port de Pointe-Noire, vous prenez le port d'Abidjan, nous savons que ces ports-là sont en train d'être érigés par Bolloré. Vous savez, la difficulté que nous avons aujourd'hui avec la STTP, qui est une société à 100% à capitaux RD congolaise. Vous savez les difficultés que cette société connaît en termes de gestion. Donc, moi, je crois qu'on ne doit pas aller dans ce contexte-là. Aujourd'hui, la RDC est grande. Nous avons assez reculé. Nous avons beaucoup de besoins en infrastructure. Et pour aller vite, on a besoin de capitaux frais. Ce que nous disons, que la RDC peut le faire, oui, la RDC peut le faire, pour autant que la RDC ait en disponible les fonds nécessaires pour pouvoir réaliser ce genre d'ouvrage. Mais bon, la négociation en termes de pourcentage, bon, je n'ai pas beaucoup de commentaires à émettre là-dessus, mais moi je crois que pour des grands ouvrages, il y a nécessité effectivement qu'on insère des capitaux étrangers. C'est ce qui se fait dans la plupart des nations. Nous ne pouvons pas nous leurrer. Nous avons effectivement beaucoup de richesses, mais ce sont des richesses potentielles qu'il faut transformer en richesses palpables. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de difficultés et beaucoup de chantiers à pouvoir élever par rapport à l'argent. Donc, s'il y a un partenaire extérieur qui a du cash, qui peut le mettre pour la réalisation des ouvrages, je crois que nous ne pouvons que le saluer. Vous savez qu'à Matadi, nous avons aujourd'hui deux ports. Nous avons le port de la STTP, qui est une société 100% congolaise, et nous avons à côté le port MGT. Le port MGT avec des capitaux des privés. Donc, si vous comparez les deux ports en termes d'infrastructure, en termes d'équipement, c'est pas comparable pour l'instant. Donc, je crois que nous devons aller dans le sens de la modernité des choses et ne pas toujours se camper derrière la souveraineté. La souveraineté, c'est une bonne chose, mais la réalisation par rapport aux besoins,
c'est une autre chose. Oui, alors, d'ailleurs, même.
L'important, c'est que l'État congolais ne vende pas à vil prix ce qui nous revient, mais je crois que nous avons aussi besoin des capitaux extérieurs, des capitaux des privés pour pouvoir faire un certain nombre de réalisations.
Oui, parce qu'on sait qu'à Matadi, il y a ces phénomènes aujourd'hui des booms de ports secs par rapport à ce que nous avons connu, en tout cas pour les uns et les autres, vous l'avez dit, SPT qui connaît quand même un problème sérieux de la trésorerie, et ce qui fait qu'aujourd'hui il fait face, il fait concurrence d'ailleurs avec plusieurs ports secs pour désengorger d'ailleurs le port de Matadi. Je crois que cette nouvelle direction d'un port à Banana, ça pourrait être aussi une bouée de sauvetage pour ces ports qui étaient en train déjà de perdre, qui étaient en perte de vitesse, et notamment en ce qui concerne, comme l'a dit l'ingénieur Mangoyo, la question sur l'entretien et aussi la maintenance, parce que qui s'est posée déjà. Voilà, on revient à vous, Jean-Luc Mekama, peut-être pour après avoir écouté trois autres auditeurs qui nous rejoignent dans ces débats. Franck est à Vienne. Franck, bonjour.
Oui, bonjour mon ami GR, merci pour la parole, bonjour à l'invité, bonjour aux amis qui se sont déjà exprimés.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Oui, merci beaucoup. Avec votre permission, je dis un mot de compassion aux amis de Kikwit. Nous venons de perdre là un ami, un grand frère, la Zombana. Je suis de cœur avec tout le monde. Et par rapport à ce que nous nous disons aujourd'hui, le projet en soi est vraiment louable et profitable car les retombées seraient favorables aux citoyens congolais en termes d'emploi, en termes d'infrastructures portuaires, touristiques et aussi routières. Mais seulement si tout est fait dans la transparence, dans la loyauté, dans le sérieux et avec un peu d'amour de la patrie. Mais comme l'ingénieur Mangoyo venait de le dire, là, il y a quand même déjà quelque part des disproportions dont on doit tenir compte. On parle d'un grand investissement de telle ampleur, mais l'État congolais n'aura droit qu'à 30%. 30% par rapport à 70%, on peut déjà voir là si c'est vraiment seulement profitable ou plus profitable pour l'État congolais ou c'est pour les autres. Ça, c'est au niveau de la réalisation. Nous souhaitons que ça puisse être concrétiser. Mais mon ami Gér, permettez-moi un peu de pousser encore nos curiosités plus loin. Depuis 2006, moi personnellement, j'ai constaté que depuis 2005-2006, nos dirigeants politiques nous ont habitués à annoncer la réalisation de grands projets aux approches des échéances électorales. On nous fait croire qu'on va signer avec telle société, on va faire ceci, on va faire cela. C'est souvent aux approches des échéances électorales. Et une fois les élections passées, c'est fini. Comme preuve, on peut objecter pour Kikwit, on nous a parlé de Kakobola, du barrage de Kakobola. Où en sommes-nous avec la réalisation de ces projets? Entre 2006 et 2011, on a annoncé la réalisation de construction de routes par-ci, par-là, autant de kilomètres bitumés. On va faire ceci, on va construire des hôpitaux.
Oui, Franck,
des écoles.
Oui, Franck, la question de promesse est une chose, et sa concrétisation en est une autre. Mais ici, nous voyons ensemble les avantages qu'on peut tirer de ces projets, l'opportunité qui s'offre à la RDC par rapport à ces projets, et aussi, c'est vrai, d'un côté, voir un peu la seule implication des enjeux politiques et aussi économiques.
Oui, justement, je l'ai déjà placé dès le début, mais je crois que nous devons plus interpeller aussi la conscience de nos dirigeants, de nos décideurs, qu'ils ne s'arrêtent pas seulement au niveau des promesses, parce que moi qui vous parle, j'ai été dans le Bas-Congo, j'ai été à Banana, on m'a fait visiter tous ces sites-là, j'ai été à Boma, j'ai été à Matadi, je connais un peu le Bas-Congo, et je connais la problématique, je sais exactement de quoi il est question dans ces projets, parce que j'ai été dans ces sites-là, je vis. Ça vaut la peine, comme je le dis, ça vaut la peine, mais seulement qu'on ne nous laisse plus seulement au niveau des promesses, parce que on a annoncé autant de barrages depuis 2005, nous sommes à 2018. Même des projets qui pouvaient être réalisés en deux ans, on ne les a pas encore vraiment réalisés.
Mais Franck, je crois que pour ce projet,
il faut plus aussi exiger la concrétisation, parce que le projet en soi est profitable à tout le monde, mais à condition que ça soit réalisé.
Mais
ça
le fait
sera
déjà
pas seulement profitable du fait que nous analysons, mais ça serait profitable, ça peut générer des emplois si c'est concrétisé. C'est là où je vais marteler mon objection.
Merci beaucoup, Franck. Mais alors, pour votre information, déjà, il y a plus de 38 ans, parce que nous l'avons dit, les projets datent de 80, mais c'est pour la toute première fois, en tout cas, depuis 80, il n'y a eu que des promesses, mais cette fois-ci, on a vu l'État congolais qui venait d'établir un partenariat public-privé avec Dubai Port World, une société des Émirats Arabes Unis pour la construction de ces ports. Donc je crois que c'est déjà un pas franchi pour sa concrétisation. Merci beaucoup, Franck. Pascal, vous êtes à Kamina. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, JR. Merci de m'avoir accordé la parole à votre émission. JR, j'ai le sentiment de joie à ces projets. Et je demande à mes compatriotes de mettre le vœu de réussite à ces gigaprojets ambitieux et audacieux, quand bien même ça produirait. En toute transparence, JR, ce projet, une fois achevé, boostera l'économie de notre pays. Mais au-delà de cette joie, je trouve aussi la peur. La peur, en jetant un coup d'œil sur le projet Inga 1, Inga 2, projet Zongo, à quoi cela nous est bénéfique, JR? JR, le port est pour les bateaux, ce que l'aéroport est pour les avions. Les taxes que nous payons à l'aéroport, entre autres la GOPAC et la TS, JR, en quoi est-ce que ça apporte dans notre budget, dans l'économie congolaise, JR? Cela nous terrifie davantage. Nous avons des potentialités chez nous. Nous avons des intelligences. Nous avons de la main d'œuvre. Ce qui nous manque, c'est la bonne gouvernance. Ce qui nous manque, c'est l'orientation. Nous ne savons pas projeter. Nous sommes trop égoïstes à nos intérêts. Aujourd'hui, on nous parle du projet du port des bananes. Mais JR, il suffit juste d'examiner le projet Inga. En quoi est-ce que ça profite aux Congolais? En quoi, où ça profite aux individus, où ça profite aux Congolais? Et même pour ces projets-là, comme l'a dit Franck à Vienne, mais il faut attendre ce moment avant les élections pour commencer à faire des promesses, un projet qui date depuis 1990. Bien, vous voyez que ce sont des manœuvres de distraction. Ce qu'il faut pour l'instant, hier, pour sauver l'économie de notre pays, c'est une alternance. Essayons d'organiser les élections dans un climat apaisé. Comme ça, celui qui viendra après celui qui est là essaiera de remettre les choses sur la bonne voie. C'est de cette façon
que
de faire cette
merci.
Avec un sentiment de joie à ce projet.
Merci beaucoup, Pascal. Je crois que les choses ne doivent pas s'arrêter parce que nous avons tous besoin des élections. Le pays ne doit pas s'empêcher de peaufiner des projets et surtout des grands projets. projets ambitieux. On va tabler sur les temps. Il y a des projets qui restent sur une durée. Et comme on dit toujours, la gestion efficace d'une république tient aussi par le principe de la continuité de la chose publique. Merci beaucoup. Célestin, vous êtes au Canada, je crois. Vous êtes de la diaspora canadienne. Voilà, vous êtes ici à l'RDC. Célestin, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour JR, bonjour Radio Kapir, bonjour à tous les compatriotes qui ont déjà donné leur point de vue avant moi.
Voilà, quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Oui JR, il est très bon. Je pense que mon avis personnel est que c'est un chantage politique. C'est juste pour nous faire voir qu'ils sont capables de pouvoir faire quelque chose pour le peuple congolais. Regardez tout ce qui a été toujours émis comme projet, émis comme pensée, comme leur façon de parler. Il n'y a rien qui se réalise. Est-ce que depuis 80 que ce projet existe? Qu'est-ce qui fait que pendant tout ce temps, nous n'avions pas eu dans le passé des ministres des affaires, des ministres des transports, ou des premiers ministres, ou des dirigeants du gouvernement qui peuvent intervenir et voir la continuité des affaires de l'État pour voir dans des projets, le prédécesseur, qu'est-ce qu'ils ont laissé comme projet dans le tiroir? Qu'est-ce qui réveille tout ça? C'est de la politique. C'est une façon de nous faire dormir. Qu'à cela ne tienne, merci si ils peuvent cette fois-ci concrétiser cela, peut-être avant qu'il soit le 23 décembre de cette année. Voilà ma contribution, JR.
Merci beaucoup, Célestin. 09 97 06 63 30 ou encore le 09 97 06 49 69 pour votre intervention en direct.
Découvrez les modèles et les talents congolais dans le magazine Étoile. Des hommes et des femmes au parcours exceptionnel. Trouvez une source d'inspiration à travers ces personnes connues et ces citoyens lambda sur Radio Kapi. Étoile, de la découverte à l'inspiration. Radio Kapi vous propose des hommes et des femmes d'exception. Suivez-les dans le magazine Étoile tout le samedi à 14h05 et 19h05, puis en rediffusion le lundi à 15h30, heure de Kinshasa.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembu.
Voilà Maxime, vous nous avez également rejoint, vous êtes à Matadi, bonjour Maxime.
Oui, bonjour.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Bien, bon, le thème d'abord du débat, parce que là, j'ai pas le thème.
Voilà, oui. Est-ce que, comme les projets d'érection de port de Banana, je crois que ça réjouit quand même l'ensemble de la population de Matadi.
Oui, nous sommes plus qu'heureux, effectivement, parce que ça a de l'impact positif sur l'économie et aussi sur le social du Congolais que nous sommes. Donc nous pouvons que nous réjouir des initiatives qui sont pour booster l'économie, puisque là, quand ça booste l'économie, nous voyons l'emploi, nous voyons aussi le social des Congolais. Donc pour nous, c'est
un... Alors vous ne craignez pas, comme d'autres fils du terroir, que cela puisse encore avoir quelques problèmes dans la mesure où les nouveaux ports pourraient occasionner, en tout cas créer l'opportunité pour qu'on puisse revoir encore les taxes ou la surtaxation?
Bon, je ne pense pas. Moi, je parle en termes d'unités à recevoir de grandes cargaisons. Parce que en termes des unités, puisque je sais que nous aussi qui sommes des associations, nous allons devoir travailler ensemble avec les gouvernements, tant provincial que national, de manière à parler sur les problèmes des taxes. Comme vous le savez, que les taxes, c'est ce qui fait aussi vivre un pays, et c'est ce qui permet, n'est-ce pas, à l'État de pouvoir faire sa politique. Donc, mais nous, du coup, quand il s'agit des nombres des unités en termes de conteneurs à recevoir dans les territoires congolais, ça ne pourra que nous réjouir, et dans les termes de timing du travail sur le traitement, lié à l'importation et à l'exportation, voilà.
Merci beaucoup Maxime. Alors on revient à vous Jean-Luc Beckham, deuxième vice-président et porte-parole de la FEC Congo Central. Que compte faire la FEC pour sensibiliser en tout cas les indécis, convaincre et aussi quelques opérateurs économiques sur les avantages?
Bon, merci JR, je crois que
Nous, au niveau de, comme je l'ai dit au départ de, enfin, au début de cette émission, nous, de la FEC Congo Central, parce que ça a toujours été notre souhait le plus ardent, nous sommes contents. Mais il est vrai que, comme j'avais dit aussi, le projet actuellement, il est là. Nous voulons le voir se réaliser. Eh bien, donc, dès lors que ce projet sera réalisé, comme toujours, la FEC amènera sous la table du gouvernement de la République les aménagements qui sont nécessaires pour effectivement rendre l'activité économique beaucoup plus attrayante et plus compétitive. Mmh. Je crois que ceux qui sont indécis, effectivement, ils voient les choses sous un angle politique. Mais nous, nous voyons la chose sous un angle strictement économique. Mmh. Et sur le plan économique, nous estimons que tout le monde a beaucoup à gagner. Donc nous devons soutenir le projet, pousser le gouvernement à la réalisation effective de ce projet cette fois-ci. Et je crois que ça sera bien pour tout le monde.
Alors, ceux qui pensent que le problème d'entretien se posera avec Acuité, et comme c'est le cas aujourd'hui avec Matadi, qui présente un visage pas très bon, que répondez-vous à cela?
Je l'avais également dit au cours de mon précédent, ma précédente intervention, hier. Je vous ai dit que quand on laisse tout entre les mains du gouvernement, parfois il y a des petits soucis. Et j'ai fait une certaine comparaison entre le port MGT de Matadi et le port de STTP également de Matadi. Dès lors que le port en eau profonde aura une partie des privés, nous croyons que cette combinaison publique et privée souvent
amènera
de très bons résultats. Et je crois que les dialogues qu'il y aura des privés, qui ont des participations, qui vont espérer voir l'ouvrage se pérenniser, je crois que le problème genre entretien et tout ça ne se posera pas. Mais je crois qu'il n'est pas question, bien entendu, comme d'autres intervenants ont souhaité de voir la chose à 100% congolaise. Je crois qu'aujourd'hui, pour ce genre d'ouvrage, nous avons besoin de la participation du privé pour que la gestion obéisse effectivement aux méthodes des privés. Et je crois qu'avec ça, tout ira pour le mieux.
À moins que vous ayez un mot de la fin, Jean-Luc Bekama.
Bon, le mot de la fin, c'est celui de l'optimisme. Le mot de la fin, c'est celui d'encourager le gouvernement dans la réalisation effective de l'ouvrage. Le mot de la fin, c'est demander aux opérateurs économiques d'être vigilants et de pousser les gouvernants à pouvoir réaliser cet ouvrage que nous avons tant entendu depuis plusieurs années.
Jean-Luc Bekama, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous rappelons que vous êtes le deuxième vice-président et porte-parole de la FEC Congo au Central. À très bientôt.
C'est à moi de vous remercier, JR. Merci.
Voilà, entre-temps, on accueille Nico Kalambay qui fait son entrée dans ce studio. Nico, de quoi parlons-nous demain?
Demain, contrairement à nos habitudes, on sera là à 10h de Kinshasa parce qu'il y a la conférence hebdomadaire des Nations Unies qui aura lieu à 11h. Bon, le gouvernement congolais a annoncé la semaine dernière que les réserves en devises de la RDC dépassent à nouveau le cap d'un milliard de dollars. Une certaine opinion estime que cette amélioration des recettes publiques serait consécutive à la discipline budgétaire instaurée depuis juillet 2017 par les autorités du pays. Qu'en pensez-vous? On se donne rendez-vous donc demain à 10h et les auditeurs peuvent commencer à se faire enregistrer à 9h de Kinshasa.
Voilà, ils doivent déjà nous appeler une heure avant l'émission, donc voilà. Demain autour de 9h pour se faire enregistrer. Nos numéros de contact, c'est les 0981 890 4969 ou encore les 0981 890 63 30.
Ils peuvent également nous laisser un message sur notre page Facebook parce que le sujet sera disponible dans quelques minutes.
Merci Nico d'avoir été au standard de cette émission. Pierre Lamegi à réaliser ce programme, mis en onde par Mimi et Kindou. Ce programme vous a été coordonné et présenté par J.R. Lungembo Luabung Anji. Merci de continuer de suivre Radio Kapi. Tout à l'heure, le bulletin d'information avec Jocelyne Moussaou Pondé.